Vous êtes sur RTL.
30. RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 18 janvier, y aura-t-il du vaccin pour tout le monde? Il y a encore quelques jours, on n'aurait jamais imaginé poser ainsi cette question. Mais plus d'un million de Français ont pris rendez-vous et les plus de 75 ans sont vaccinés à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas les doses, s'énerve l'urgentiste Patrick Peloux. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, se défend en expliquant qu'il travaille en flux tendu. 27 cas de Covid recensés dans une école du Plessis-Belleville dans l'Oise. Et pourtant, elle est encore ouverte. Dans RTL Midi aussi, à l'occasion du nouveau palmarès du guide Michelin, nous passerons un coup de fil à un jeune chef étoilé l'an dernier à Buxy en Saône-et-Loire. Il nous parlera de ses espoirs et aussi de ses désillusions. Et puis le coup de cœur de notre correspondant nous emmène aujourd'hui dans le golfe du Morbihan sur l'île aux Moines. Malgré le décor paradisiaque, il a fallu un an au maire pour recruter un nouveau médecin. La météo, bonjour Louis Baudin.
Je vais y aller. Oui. Bonjour Christelle.
C'est Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. C'est bien un Blue Monday dans le ciel.
Oui, exactement. On voit du bleu dans le ciel. C'est vrai qu'on retrouve un temps quand même un petit peu plus calme aujourd'hui sur toutes les régions, avec effectivement des petits coins de ciel bleu qui peuvent apparaître. Alors c'est parfois un peu compliqué dans la moitié nord, c'est beaucoup plus facile dans le sud, hein, où le soleil même l'emportera très facilement de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée. Dans la moitié nord, bon, on sera parfois un peu plus compliqué, notamment près de la Manche où il restera quelques gouttes de pluie, je les vois là, entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Le tout avec des températures en haut, ça reste froid dans le nord-est, hein, de la région Rhône-Alpes à l'Alsace, 3 à 6 degrés, pas plus cet après-midi, mais si à 10 degrés dans toutes les autres régions et parfois même jusqu'à 14 degrés près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr à propos de la vaccination des 75 ans et plus. Avez-vous réussi à prendre un rendez-vous? On attend vos témoignages au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Je ne suis pas concerné par cela puisque j'ai moins de 75 ans, mais manifestement autour de moi c'est compliqué. On aura des témoignages tout à l'heure sans doute au 32-10 qui est beaucoup plus facile à joindre que le numéro de santé publique. Vous pouvez nous appeler et nous dire les difficultés que vous rencontrez. L'amendement de la députée de La République En Marche, Aurore Berger, qui visait à interdire le port du voile aux petites filles a été rejeté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. De cela, vous nous donnerez votre avis. Des milliers de personnes victimes d'inceste témoignent sur le réseau social Twitter depuis samedi. C'est hashtag MeTooInceste. Près d'un Français sur 10 aurait été victime. Je n'arrive pas à croire à ce chiffre. C'est 6 millions et demi de personnes. Si c'est le cas. Donc appelez-nous aussi au 32-10. Et puis, vous l'avez dit, c'est le troisième lundi du mois de janvier qui serait la journée la plus déprimante de l'année. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, toutes les journées sont déprimantes. Mais bon, à tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Les seniors d'abord. La vaccination s'élargit donc aujourd'hui à toutes les personnes de plus de 75 ans et à tous ceux qui présentent des pathologies à haut risque. Au total, près de 6,5 millions de Français. 1 million de personnes avaient déjà pris rendez-vous vendredi sur les plateformes dédiées avec des délais qui montent jusqu'à un mois. Étienne Baudu, vous êtes au gymnase du Val-de-l'Arc à Aix-en-Provence où l'on pique à tour de bras.
Oui, pour un début, le temps du rodage, 200 personnes sont prévues aujourd'hui, 5 à 600 par jour d'ici la fin de la semaine. Les doses sont arrivées ce matin en provenance du CHU de Marseille. Et dans le gymnase, un circuit est organisé pour la prise en charge, confirmation de l'inscription, passage devant un médecin et la piqûre. Georgie, 82 ans, est la première de la matinée. Elle a choisi le bras droit.
Je ne crains pas les piqûres.
On ne craint pas les deux. Allez, on y va. Ça va ?
Très bien.
Je vais doucement pour pas que ça vous fasse mal.
On sent une petite chaleur, c'est comme ça.
Des fois, vous savez, ça fait une petite boule. Il faut juste mettre du chaud pour que ça diffuse un peu et frotter. Ça y est, c'est fait.
Ah, l'été extraordinaire, je n'ai absolument rien senti. On verra par la suite, mais pour l'instant, tout se passe bien.
Et après un quart d'heure d'observation, avant de quitter le gymnase, Georgie a pu s'inscrire pour la deuxième injection dans un mois. Alors, ce ne sera pas le cas d'Yvette, 77 ans. Yvette est bienvenue ce matin devant le gymnase, sans rendez-vous et pour cause.
J'ai pas Internet, monsieur, comme beaucoup de gens de mon âge, et on est coincé. Le téléphone est saturé, on répond pas, donc à tout hasard, voir comment ça se procédait. Je serais peut-être pas là dans 6 mois.
Mais exceptionnellement, Yvette a pu malgré tout repartir avec un rendez-vous.
Reportage Étienne Baudu à Aix-en-Provence. Et puis il y a comme un engorgement, vous venez de l'entendre, l'opinion s'est retournée, elle est majoritairement favorable au vaccin. Or, Pfizer réduit sa production cette semaine. Les soignants se plaignent qu'il n'y a pas assez de doses disponibles. L'urgentiste Patrick Peloux s'est même énervé ce matin au centre de vaccination de l'Hôtel Dieu à Paris.
Il y a un gros problème sur les approvisionnements en vaccins. Là, c'est pas possible. On a dit aux personnes de plus de 75 ans qui pouvaient se faire vacciner dès ce matin, en fait, qu'il n'y a pas les doses. Il n'y a pas les doses. J'accuse personne, je dis juste qu'il faut arrêter de mentir aux gens et de leur dire qu'ils peuvent se faire vacciner. Puis en fait, c'est extrêmement compliqué. Ça ne va pas du tout. Hein. Il y a vraiment le feu au lac. Deuxièmement, là, depuis ce matin, je remplis des questionnaires qui sont kafkaïens pour vacciner les gens. Je vaccine à peu près en 30 secondes les gens. Hein. Ça fait à peu près 3 heures que je vaccine. Il n'y a eu aucun malaise ni rien, d'accord ? Et je mets, sans mentir, à peu près 4 minutes à remplir un questionnaire. Je ne sais pas qui le lira.
Patrick Peloux avec Éric Vanier. Pas assez de doses, donc. Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui était au CHU de Grenoble ce matin, a répondu aux critiques.
Vous avez deux choix. Ou vous dites, j'attends d'avoir 5 millions de doses pour commencer à vacciner 5 millions de Français âgés de 75 ans et plus. Et donc, vous stockez dans les frigos des doses. Je ne suis pas sûr que ce soit très bien compris et perçu, ou vous dites qu'on va fonctionner ce qu'on appelle en flux tendu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des doses arrivent, eh bien on les met immédiatement à disposition, on ouvre des créneaux de rendez-vous pour les Français. À chaque fois. Et donc chaque semaine, à chaque fois que des doses vous seront livrées, eh bien les doses correspondront à des créneaux de rendez-vous qui seront donnés dans les 800 centres du pays et qui permettront de vacciner davantage de Français. Donc nous sommes en flux tendu, c'est notre stratégie, c'est la stratégie de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre, de tous les pays en réalité qui vaccinent. On ne fait pas de stock caché, au contraire, dès qu'on a des vaccins, on les déploie et on protège les Français. Donc à mesure que les vaccins nous seront livrés, les personnes seront protégées.
Olivier Véran au micro RTL de Serge Puyot et la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher promet que le retard de livraison de vaccins de chez Pfizer sera rattrapé à la fin du premier trimestre. On est dans une course de vitesse entre vaccination et mutation du virus. L'épidémiologiste Arnaud Fontanet redoutait hier au grand jury RTL Le Figaro LCI une poussée de l'épidémie en mars-avril. Le variant anglais plus contagieux inquiète, mais il faut détecter aussi le variant sud-africain, Virginie Garin.
Oui, alors déjà, si vous êtes malade, Christelle, vous faites un test PCR. Peu importe si vous avez le variant anglais, sud-africain ou une autre forme du virus, vous êtes positif, votre cas est bien détecté. Ensuite, pour savoir plus précisément si c'est un variant et lequel, vous avez des tests PCR qui sont capables de détecter une anomalie. Alors, pas avec certitude, mais ils repèrent quelque chose qui doit ensuite être confirmé par une analyse génétique complète dans l'un des 10 centres spécialisés en France. Alors, ces PCR qui alertent, en quelque sorte, existaient pour le variant britannique et ils existent désormais pour le sud-africain. D'ailleurs, à Paris, tous les tests PCR réalisés dans les hôpitaux sont capables de donner cette indication. En début de semaine prochaine, sera faite en France une vaste étude, flash, plus de 100 000 tests PCR qui permettront de détecter tous les Britanniques et tous les Sud-Africains. On saura alors la proportion de ces deux variants dans notre pays, même si les scientifiques savent déjà qu'a priori, le Britannique circule dans toutes les régions de France et le Sud-Africain dans quelques clusters, notamment en Île-de-France.
Virginie Garin. Et pour éviter l'introduction du variant anglais du virus en Guadeloupe, tous les voyageurs devront s'engager sur l'honneur à respecter un isolement de 7 jours à leur arrivée. Une pause avant de partir dans l'Oise, où malgré 27 cas de Covid, une école est toujours ouverte.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
27 cas de Covid recensés en une semaine dans une école du Plessis-Belleville dans l'Oise. 22 enfants ont été contaminés. Il y a aussi du personnel, des animateurs, des agents d'entretien. Et malgré ce signalement, l'école est toujours ouverte. Ça paraît assez incompréhensible, Marie Guerrier.
En fait, c'est parce que les choses sont survenues progressivement. En début de semaine dernière, les premiers cas concernent des adultes de l'école et les élèves d'une classe. Une classe de CM2 qui est donc fermée. L'école et l'Agence régionale de santé, l'ARS, évaluent la situation, le nombre de cas contacts, les tests à passer. Au fur et à mesure que les résultats des tests arrivent, de nouveaux cas sont identifiés et conduisent à la fermeture vendredi d'une deuxième classe de CM2. Le protocole prévoit que lorsque les cas sont cantonnés à un seul niveau, on ne ferme pas l'école en entier. Les établissements sont censés limiter le brassage pour éviter justement de tout fermer tout de suite. La cantine a été fermée jeudi et vendredi à cause du personnel malade. Et puis, les résultats de tests ont continué à arriver tout au long du week-end. Et hier soir, nouvelle décision, 2 classes supplémentaires sont fermées à partir d'aujourd'hui. Ça fait donc 4 classes sur 11 que compte l'établissement. Mais désormais, cela touche des niveaux différents. Une classe de CP-CM1, une classe de CE2, en plus donc des CM2. La décision de fermer l'école devient inéluctable. Elle sera prise normalement dans la journée par la préfecture en coordination avec l'ARS et l'Éducation nationale. Et depuis ce matin, des tests antigéniques sont proposés à tous les adultes de l'école, même s'ils n'étaient pas en contact direct avec les porteurs déjà identifiés du virus.
Marie Guerrier, les étoiles du Michelin entendent briller malgré malgré le Covid, le bibindum imperturbable vient de dévoiler son palmarès à bonne distance sur YouTube. Il maintient tous les macarons des 3 étoiles et assure avoir pu visiter tout le monde, même si les restaurants n'ont été ouverts que 6 mois l'année dernière. Et nous avons eu envie, dans RTL Midi, de savoir comment se sont débrouillés les jeunes chefs qui avaient reçu une première étoile l'année dernière. Nous sommes avec Maxime Kowalczyk du restaurant L'Empreinte à Buxy, en Saône-et-Loire. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 29 ans, Maxime. L'an dernier, vous avez donc obtenu votre première étoile. J'imagine que c'était une belle consécration. Est-ce que vous avez eu le temps d'en profiter ?
Très peu, très peu. On a eu 2 mois et demi voilà, où on a pu en profiter. L'effet de l'annonce, voilà, le restaurant qui se remplissait. Donc voilà, il y a eu un bel ascenseur émotionnel avec la joie de cette étoile et juste derrière le confinement voilà, qui a été dur pour tout le monde. On attend. C'est assez délicat, on n'a aucune visibilité. Donc on espère bien sûr réouvrir le plus tôt possible et surtout voilà, ne pas repartir sur un stop and go qui serait dramatique. Quoi, derrière, si on réouvrait pour refermer après, là, ce serait vraiment dramatique.
Vous qui êtes à Buxy, Maxime, est-ce que vous avez pu faire de la vente à emporter ou est-ce que ça n'a aucun intérêt ?
Non, trop difficile. Voilà, dans les campagnes comme ça, c'est trop difficile. Nous, c'est trop risqué. C'est prendre le risque de produire pour jeter, pour avoir des pertes, pour toutes ces choses-là.
Mais les clients, ils sont là quand même.
Premier confinement, énormément de demandes, on n'a pas fait, mais énormément de demandes. Là, deuxième confinement, enfin, et depuis qu'on est voilà, de nouveau fermé, il y a quand même moins de demandes. Enfin, moi, sur ma part, sur Buxy en général. On a quand même beaucoup de soutien, voilà, ils appellent aussi régulièrement pour savoir si on a des nouvelles, quand est-ce qu'ils pourront revenir. Mais voilà, ils sont aussi impatients, je pense même plus que nous.
Je sens beaucoup d'abattement dans votre voix, Maxime.
C'est de l'abattement, oui et non. Voilà, le plus dur, encore une fois, c'est d'avoir aucune visibilité. Et c'est vraiment ce qu'on reproche, quoi. Au moins nous donner une date, même si c'est dans 2 mois, 3 mois, mais au moins qu'on ait quelque chose, voilà, à quoi se tenir. Parce que là, on est vraiment dans le flou, on ne sait pas. C'est là où c'est vraiment compliqué.
Et au niveau des aides, vous avez 10 salariés, vous, hein. Ils sont au chômage partiel, j'imagine. Comment vous en sortez ?
Voilà. On s'en sort pas. Enfin, c'est délicat. Voilà, il y a aussi tout cet effet médiatique des annonces gouvernementales, notamment aussi sur le chômage partiel. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que le chômage partiel, il est remboursé sur une base de 35 heures. Nous, nos contrats, ils sont à 39 heures. Donc la solution, c'est au bon vouloir du patron. Mais moi, mes salariés, je les paye 39 heures. Je vais pas les payer 35. Donc tous les mois, on a 4 heures qui nous sont pas remboursées. Là, un autre exemple, on est le 18 janvier. On attend toujours le remboursement des salaires du mois de décembre et les 10 000 euros du fonds de solidarité qu'on n'a toujours pas.
Et vous pensez tenir combien de temps comme ça ?
Ça fait ça va faire 3 ans qu'on est ouvert à Buxy. C'est 3 ans de travail acharné pour avoir un semblant de trésorerie qui est parti totalement dans les 2 confinements. On a fait un prêt garanti par l'État, comme beaucoup, mais qu'il faudra rembourser. Là, clairement, nous, on a 6 mois de survie devant nous, à peine. Et encore, après, faudra pouvoir repartir.
Personnellement, vous n'avez pas de salaire ?
Nous, on est en co-gérance avec ma compagne, et oui, on a eu 1500 euros, mais pour 2. Donc on a eu 750 euros pour vivre, chacun.
Ça doit être difficile quand même quand on part et qu'on se sent lancé par la première étoile, et finalement, on vous a un peu cassé les ailes ?
On nous a cassé les ailes. Après encore une fois, l'étoile, voilà, c'était un objectif. Ça arrivait beaucoup plus vite que ce qu'on le pensait. Donc on l'a très bien accueilli. C'était voilà, super, l'équipe, tout le monde était content, voilà. Mais là, à l'heure actuelle, c'est vraiment la survie de l'entreprise, garder tous les salariés, parce que c'est aussi notre premier objectif. À l'heure actuelle, c'est de laisser personne de côté, licencier personne. Donc on va tout faire pour. Mais voilà, faudrait quand même pas trop que ça tarde.
Au revoir Maxime, merci beaucoup et tenez bon du côté de Buxy en Saône-et-Loire. Pour faire le point sur les aides aux secteurs les plus en difficulté, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera l'invité de Thomas Soto à 18h15 dans RTL Soir. Une pause et dans un instant, on part au procès dit de la grotte sanglante.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Il nie toujours avec force, et il l'a répété à l'ouverture de son procès, Rémi Chaîne, un ancien coiffeur, comparaît devant les assises de l'Hérault pour l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat de Patrick Izoard, un ancien agent hospitalier à Sète. Il avait été retrouvé dans une grotte. L'accusé nie donc, et sa complice présumée qui aurait servi d'appât le charge, Patrick Tégéraud.
Après la lecture de l'ordonnance de renvoi, la présidente a donné la parole aux deux accusés. Rémi Chaîne a affirmé fermement « Je suis innocent et c'est tout ». Audrey Louvet a glissé d'une voix faible « Je sais ce que j'ai fait, j'ai dit la vérité ». La présidente la reprend « Toute la vérité » selon l'expression consacrée. Plus clair, Audrey Louvet affirme elle aussi « Toute la vérité ». Au premier rang des parties civiles, il y a Marc Izoard, le frère de la victime. Il les crible du regard. En mémoire de son frère, il porte un pavois comme médaillon, un symbole des joutes de Sète. Il est ému mais combatif à l'égard des accusés.
Bon, j'ai même plus de réaction. Je suis habitué maintenant depuis 6 ans et demi. Il a toujours nié et il avouera jamais, quoi. Qu'il avoue pas, c'est pareil. Moi, je vous dis, j'ai lu le dossier, je sais ce qu'il y a dedans. C'est lui, il n'y a aucun doute.
Cet après-midi, ce sera le tour des enquêteurs de personnalité pour faire les portraits de celui qui se dit innocent, mais que tout accuse, et en premier lieu sa co-accusée. Une femme, frêle, fragile, dont les aveux iront crescendo en 2 ans d'enquête, petit à petit, comme pour laisser échapper une pression insupportable.
Patrick Tégéraud, Palais de Justice de Montpellier pour RTL. Attention, texte ultra sensible. Le projet de loi séparatisme arrive à l'Assemblée nationale avec les premiers débats en commission. L'amendement le plus inflammable, celui d'Aurore Berger, visant à interdire le voile pour les petites filles, a été retiré pour ne pas phagocyter l'attention. La majorité évite donc le sujet qui fâche et ça fait les délices de l'opposition, Marie Mollet.
Oui, car elles sont bien rares, les occasions d'exister pour l'opposition en pleine crise sanitaire. Cette fois, la droite n'a pas l'intention de jouer les figurants. Elle a déposé plus de 600 amendements. Mais hier, tous ceux qui portaient sur le voile, notamment, ont été retoqués. Hors sujet, a jugé la commission spéciale de l'Assemblée. De quoi faire bondir le patron des députés LR, Damien Abad, qui dénonce un mépris du Parlement.
Pour nous, c'est un déni de démocratie. C'est anormal qu'on puisse pas avoir un débat sur le voile. On a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre. C'est un vrai sujet de laïcité. Et donc si on peut pas en débattre dans le cadre de ce projet de loi, à quel moment on va en débattre? Et on voit bien que le gouvernement est très gêné, très embêté. Et on voit bien aujourd'hui que ce qu'ils veulent surtout, ils veulent du pas de vague. C'est antidémocratique et c'est pas respectueux des droits du Parlement.
Mais la bataille ne s'arrête pas là, car la droite pourrait redéposer les amendements au Sénat. Quant à Marine Le Pen, elle entend présenter un contre-projet de loi, car dit-elle, le gouvernement n'a aucune volonté de lutter contre le cancer islamiste. L'occasion de redonner un coup de fouet à sa campagne à moins d'un an et demi de l'élection présidentielle.
Marie Mollet, Alexei Navalny dénonce une parodie de justice. Un tribunal a été convoqué dans un commissariat pour se prononcer directement sur son placement en détention. L'opposant russe a été immédiatement arrêté hier à son retour à Moscou. Il accuse le président Poutine d'avoir ordonné son empoisonnement auquel il a survécu. La France, l'Allemagne, la présidente de l'Union européenne et l'ONU réclament ce matin sa libération immédiate. Comme chaque jour dans RTL Midi, le coup de cœur de nos correspondants en région pour un personnage, une histoire, une initiative locale. Aujourd'hui, nous partons à l'île aux Moines, dans le golfe du Morbihan. On l'appelle la perle du golfe, entre chemins côtiers, somptueuses villas et grandes plages. Mais dans ce paysage de rêve, eh ben, il a quand même fallu presque un an pour trouver un nouveau médecin. Et cette fois, Patrice Gabart, les Iliens commencent l'année soulagés.
Après 13 ans d'exercice, le docteur Yves Taveau, le seul médecin de Lille, avait annoncé en avril dernier son intention de prendre enfin sa retraite à 70 ans à la fin de l'été. Seulement, faute de candidats, je peux vous dire qu'il n'a toujours pas raccroché son stéthoscope, mais ce n'est plus qu'une question de jour. En effet, la campagne médiatique a porté ses fruits. Le docteur Christine Auchard, 59 ans, qui a déjà exercé dans le Morbihan, avant de s'installer dans le Lot et qui souhaitait revenir en Bretagne, va bientôt prendre le relais. Le maire de Lille, Philippe Le Bérigaud, m'a exprimé son soulagement ce matin.
L'inquiétude qui pesait sur nos épaules, comme beaucoup de maires à travers la France, à savoir, est-ce qu'il y aura une relève du médecin partant à la retraite? Effectivement, nous voilà soulagés. Le coup de cœur, entre le médecin d'un territoire insulaire et sa population, se passe quelque chose, et ma foi, donc, ça a été le cas. Donc, elle a été emballée. Et nous aussi, pour cette aventure, donc, qui prendra effet à compter du 1er février. On s'en tire très bien et on en est forcément heureux.
Le futur retraité et le nouveau médecin travailleront en doublon la semaine prochaine pour assurer la transition. L'île aux Moines, c'est 600 habitants l'hiver, 6 000 l'été.
Merci pour cette carte postale de l'île aux moines. Merci Patrice Gabart. On le surnomme le Blue Monday, on en parlait tout à l'heure. C'est le jour le plus déprimant de l'année, le troisième lundi de janvier. C'est un psychologue britannique qui a mélangé la météo, l'état de ses finances et sa motivation pour aboutir à cette date. Autrement dit, ça n'a aucune valeur statistique, mais peu importe. Pour éviter le blues du Blue Monday, si ça vous touche, soyons heureux. Pharrell Williams, c'est son Happy. Je sais, c'est de la méthode Coué, mais ça peut marcher.
Bien sûr.
Hein, et sachez qu'Éric Jean-Jean consacre ce soir son bonus track entre 21h et 22h sur RTL à toutes les chansons qui nous rendent heureux. Pardon. Et celle-ci en fait partie. Vous êtes allergique au bonheur, je vois que vous vous éternuez, Pascal Pro.
On rentre dans le dur. Au bout d'un moment, vous êtes allergique au bonheur. Vous connaissez cette histoire, un jour, paraît-il, on avait demandé au général de Gaulle, « Vous êtes heureux, mon général ?» Et il aurait répondu, « Vous me prenez pour un con ?» Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
Faudrait vérifier. Demander au service politique.
Évidemment, c'est un monde derrière cette phrase, forcément. On est parfois heureux, on a des moments de bonheur.
Le bonheur,
on a quand même des moments d'amour. Il y a aussi le mot de Prévert, je crois. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait lorsqu'il s'en va.
Ça, je trouve ça magnifique.
Mais oui, parce que c'est vrai, en fait, on se rend peut-être pas compte de notre bonheur. Par exemple, le bonheur que j'ai d'être avec vous en ce moment.
Oh ben ça fait plaisir.
Si je ne l'avais pas, peut-être que j'en
souffrirais. Que vous feriez autre chose.
Exactement. C'est intéressant ce qu'on dit. C'est le Blue Monday.
C'est magnifique. Et vous avez épuisé votre temps de parole. C'est dommage. Bon, on vous attend au 32-10. Vous avez forcément plein de choses à nous raconter sur la vaccination.
On parle toujours de la même chose depuis des semaines. Donc si je vous disais qu'on parlait d'autre chose, des vacances à la mer, vous seriez surpris. On va parler du Covid. Exceptionnellement.
La météo, Louis Baudin, c'est un jour sans alerte météo.
Ça faisait quelques jours, effectivement,
ça aussi,
qu'on
ça nous
était
rend
sous alerte à la neige, au froid, au risque d'avalanche. Là, ça va être un petit peu plus calme. Bon, c'est vrai que le risque d'avalanche va quand même persister dans les Alpes du Nord, mais c'est vrai qu'on ne peut pas aller skier. Donc, ça n'empêche pas de rester prudent quand même. Et pour le reste, c'est vrai que c'est un peu plus calme aujourd'hui, moins d'averses, que ce soit sous forme de pluie ou de neige, et puis donc un peu plus d'éclaircies. C'est même du grand soleil en ce moment dans le sud, de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée. Ça sera comme ça cet après-midi, avec un peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lion, puis dans la moitié nord, là aussi quelques éclaircies, bon, avec parfois quand même quelques passages nuageux, voire quelques gouttes de pluie, c'est pas compliqué, je les vois là, sur la Normandie, sur le Nord-Pas-de-Calais, et puis côté température, allez, ça remonte un petit peu, ça reste froid dans le nord-est, 3 à 6 degrés de la région Rhône-Alpes à l'Alsace, mais 6 à 10 degrés dans les autres régions, et parfois même jusqu'à 14 degrés près de la Méditerranée.
Bon, et demain on en profite toujours.
Demain on en profite toujours avec du grand soleil au sud de la Loire pour toute la journée, quelques brumes, brouillard le matin, vite dissipé, notamment dans la vallée de la Saône, mais en cours d'après-midi, le soleil s'imposera quasiment partout. Quelques nuages près de la Manche et sur les bords de la Méditerranée, puis les températures. Alors toujours des gelées le matin, notamment dans la moitié sud, mais l'après-midi, 5 à 9 degrés dans le nord-est, mais 9 à 13 degrés dans toutes les autres régions. Ça monte encore un peu.
Eh ben c'est parfait, merci Louis. À suivre, le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
Il est 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Vous le savez, c'est aujourd'hui l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. Donc on va interroger Jean-Marie qui est déjà avec nous. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Pascal.
Est-ce que vous avez réussi à avoir un rendez-vous ?
Oh, ça a été une véritable pétodière pour arriver.
Eh bien, vous allez nous expliquer tout cela dans un instant après le rappel des titres Christelle.
Top départ donc pour la vaccination des plus de 75 ans sur fond de crainte de pénurie et de critiques sur l'organisation. Il n'y a pas les doses, disait tout à l'heure dans RTL Midi l'urgentiste Patrick Peloux. Olivier Véran, le ministre de la Santé, promet que le cap du million de vaccinés sera largement atteint d'ici la fin du mois. Mediapro propose à la Ligue de foot de poursuivre la diffusion des rencontres après le 31 janvier et même d'aller jusqu'à la fin de la saison. Elle a pourtant été évincée pour ne pas avoir honoré ses traites, mais la Ligue n'a pas encore trouvé de diffuseur pour récupérer les droits TV vacants. Alexei Navalny dénonce une parodie de justice. Un tribunal a été convoqué dans un commissariat pour se prononcer directement sur son placement en détention. L'opposant russe a été immédiatement arrêté hier à son retour à Moscou. Il accuse le président Poutine d'avoir ordonné son empoisonnement auquel il a survécu. La France, l'Allemagne, l'Union européenne et les Nations unies réclament sa libération immédiate. Les auditeurs.